7h59, on fort vite et dans quelques instants, Charles Quentin s'en vient. Mais là, les informations avec André.
Les nouvelles au 92.5.
Vous souhaitant un bon vendredi, tout le monde, et en passant, Fame, oui. Fame était plutôt un film, je me suis trompé, mais je pense qu'il y avait eu une série dérivée du film en 1980.
Dans le fond, Irene Cara tourne le film.
Ben oui, puis Irene Cara tenait le rôle. Ouais, tenait un rôle dans le film Fame en plus. Et en plus d'interpréter la chanson titre. Non, la danseuse, l'actrice du film Flashdance, c'était Jennifer Beals.
OK.
Ben, merci beaucoup, messieurs. Ça m'a fait plaisir. Vous me passionnez par vos sujets. Je trouve ça le fun ce matin. allons-y avec, bien sûr, il y avait deux investitures hier du côté de Chicoutimi. Il y avait d'abord l'investiture de l'ERD, l'investiture du Bloc québécois également. Et vous dire que on était là, présent dans les deux endroits. On va y aller d'abord avec le Bloc parce que hier, Marc Saint-Hilaire a été présenté officiellement comme candidat du Bloc. Alors, on lui a demandé ses impressions. Alors, voici les commentaires de Marc Saint-Hilaire sur le feeling qu'il avait de se présenter dans cette aventure et de sauter la clôture pour se retrouver de l'autre côté journalistique.
Je me sens fébrile, mais je me sens... je rentre là la tête haute, puis avec la conviction que je prends la bonne décision. Je me suis écouté, j'ai écouté mes valeurs, j'ai écouté mon sens du devoir aussi, je te dirais. J'avais besoin de ce défi-là, je pense. Puis quand le train est passé, comme je l'ai dit en conférence de presse, j'ai sorti mon billet, puis je suis embarqué à fond. Donc, j'entreprends ça avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de confiance, puis aussi beaucoup de soif de découverte. Puis je veux le vivre pleinement.
Et on lui a demandé à M. Saint-Hilaire, vous vous présentez dans le comté Chicoutimi-le-Fjord, détenu par le conservateur, détenu façon de parler, mais représenté plutôt par le conservateur Richard Martel. On lui a demandé, selon vous, donc, si vous vous présentez, c'est parce qu'il manque quelque chose peut-être dans le comté. Selon vous, qu'est-ce qui manque dans Chicoutimi-le-Fjord? Voici sa réponse.
Je pense qu'il manque un député du Bloc québécois. On le voit dans certains dossiers. Je pense celui de l'immigration, une famille d'immigrants qui a dû faire appel au bureau de Mario Simard, mon collègue à Jonquière, parce qu'ils se sont butés à une porte close au bureau du député de Chicoutimi-le-Fjord. Donc, je pense que dès le moment où je vais être élu, au lendemain de l'élection, je vais reprendre ces dossiers-là à mon collègue Mario Simard.
Et à noter, on vous en a parlé ce matin, à noter que le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, sera l'invité de Réveillez-vous dans quelques instants sur nos ondes, alors ne manquez pas ça. Et on va terminer ce court bulletin de nouvelles, on reviendra avec un bulletin complet un petit peu plus tard. Allons-y avec l'investiture de l'ERD, confirmée hier soir, ça a été la consécration, si on veut, de la chef Christine Basque. Je vous propose d'abord d'écouter un discours de passation de pouvoir, Marc Bouchard, qui était le chef jusqu'à tout récemment. Voici ce qu'il avait à dire sur Mme Basque.
C'est avec détermination et positivisme qu'elle entend porter fièrement les couleurs de notre formation politique, défendre le droit de nos citoyens de prendre part activement à la vie démocratique. Pour l'avoir rencontrée à quelques reprises, je suis convaincu qu'elle saura gagner la confiance des gens et se tailler une place dans leur cœur grâce à son attitude rassembleuse et sa volonté de développer Saguenay pour attirer des investissements majeurs chez nous et faire en sorte que les citoyens se sentent bien dans notre merveilleuse ville.
Les mots « leader » et « équipe » ont d'ailleurs parsemé à plusieurs reprises le discours de la chef, Mme Basque.
Saguenay a besoin d'un vrai leader qui sera capable et surtout qui aura la volonté de travailler de concert avec les députés, les ministres qui nous représentent, tant au provincial qu'au fédéral, afin de faire avancer les dossiers qui nous touchent. Saguenay a également besoin d'une administration qui sera à l'écoute de ses citoyens et de ses citoyennes.
Sachez qu'on entend recruter dans les prochains jours, ça va commencer dans les prochains jours, des candidats dans chacun des 15 districts pour représenter l'ERD. Voici ce qu'avait à dire Mme Basque là-dessus.
Dès cette semaine, nous allons accentuer nos démarches afin de recruter des candidats dans les districts de Saguenay. Mon objectif, trouver des hommes et des femmes motivés, dynamiques, qui partagent les valeurs de l'ERD et qui veulent s'impliquer dans la vie démocratique de notre merveilleuse ville.
Alors voilà, ça complète le petit tour d'horizon de l'actualité. Je vous promets un bulletin un peu plus complet. Et pour nos nouvelles, notre site web est de nouveau fonctionnel depuis ce matin. Rendez-vous sur ckaj.org, section Journal Radio 92.5.
Bienvenue mini-supermarché Restauration. Spécial déjeuner de 6h30 à 10h sur le boulevard Saguenay et de 7h à 10h sur la rue Bégin, 7 jours sur 7. Muffin anglais, œuf bacon, jambon, patate, café et fruits à 7,99 $. Le déjeuner bon réveil. Un œuf bacon, patate, rôti, pain de ménage, fruits et café à 9,99 $. Bienvenue mini-supermarché Restauration, rue Bégin et boulevard Saguenay.
Vous êtes présentement à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'intervention? La prévention du suicide vous interpelle? Le Centre d'écoute et de prévention du suicide 02 est présentement à la recherche d'intervenants de nuit pour compléter son équipe sur le service d'intervention de première ligne 24/7. Consultez notre site web au www.cps02.org pour plus d'informations. Besoin d'aide pour vous ou pour un proche? 1-866-APPEL.
Oui. Ici Casey Blacksmith de la station Shook 107.3. Ne manquez pas l'émission Découverte musicale autochtone tous les samedis 18h au 92.5, ma radio d'ici. Entrevue avec des artistes autochtones de partout au Québec. Chansons à découvrir. Une heure entièrement consacrée à la musique des Premières Nations. Découverte musicale autochtone les samedis 18h au 92.5, ma radio d'ici. La seule station allochtone à offrir une vitrine à la musique autochtone.
Pièce d'auto Sainte-Geneviève est fière de vous présenter l'émission Réveillez-vous. Pièce d'auto Sainte-Geneviève, une identité régionale depuis 28 ans. 4 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un site 100% transactionnel. Pièce d'auto Sainte-Geneviève vous souhaite une bonne émission.
Judiciaire, politique, tout y passe. Libéré sur parole avec l'avocat criminaliste Charles Quentin.
Non coupable pour cause d'aliénation mentale.
8h06, on est maintenant rendu à la chronique judiciaire avec Charles Quentin et on va revenir sur un dossier qui s'est passé cette semaine, au début de la semaine, avec Docteur Paradis, qui faisait face à des accusations d'agression sexuelle avec, je crois, c'était sa belle-fille.
Exact.
Avant, en famille, c'était pas au sujet au niveau du travail. Mm-hmm. Et finalement, les accusations sont tombées.
Retirées.
Ont été retirées par la couronne.
Oui. Ça doit être rare quand même que la couronne elle-même là, se dit c'est bon, on arrête ça. Là.
Absolument. Puis on va demander justement si ça arrive plus souvent qu'on pense avec notre ami Charles Quentin. Salut Charles.
Oui, bonjour.
Est-ce que ce genre de choses, de voir la couronne retirer ses accusations, on voit ça souvent?
Ça arrive.
Ça arrive?
Ah oui.
Okay. Mais dans ce dossier-là...
Est-ce que c'est parce que... je vais essayer de poser ma question, qu'elle soit claire. Est-ce que c'est parce que c'est pas fondé, les accusations, ou ça peut être parce
qu'il
y a
eu... trop fort?
Non, ça a été mal fait du côté des policiers.
Ouais.
Parce que des fois, ça peut être vrai, mais il y a eu un problème policier, ou des fois, c'est juste pas vrai.
Ça peut être plusieurs affaires. On le saura pas parce que souvent, ça se fait dans le secret professionnel.
OK.
Et souvent, c'est... Écoute, je veux rien enlever à l'avocat de la défense, mais souvent, c'est un virement de cap par rapport à la victime. Il décide de pas aller de l'avant. Parce que si la couronne retire les plaintes à la non-satisfaction de la victime... Ben, il risque d'avoir du rififi ou du brouhaha. Et si la couronne retire les plaintes parce qu'elle pense qu'elles sont non fondées, ben, c'est la couronne qui risque d'avoir des problèmes.
OK. Mais, hein?
Parce que tu peux pas traîner en cours quelqu'un pour une deuxième fois pour la même chose.
Mm-hmm. Ouais. Ben, dépendamment, si tu as de la nouvelle preuve.
Ah.
Un exemple, vous frappez un individu, l'individu est blessé. Mm-hmm. Vous avez un chef de voie de fait lésion ou un chef de voie de fait grave. Quelques semaines plus tard, l'individu décède. Vous avez un fait nouveau. Je vais vous faire un lien mieux que ça, là. Donc, il y aura une accusation d'homicide involontaire. Dans le cas qui nous occupe, on le fait pas. Bon,
c'est ça.
Est-ce que c'est un virement de cap de la victime qui veut plus aller loin, qui veut plus... Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne crois pas que cela ait été dit.
Okay.
Il y a peut-être également, quand on fait des enquêtes préliminaires, une enquête préliminaire bien étoffée, il arrive qu'il y a un changement de situation. Ce que je vois régulièrement dans mes dossiers, ou dans les dossiers de mes confrères, c'est qu'après une enquête préliminaire, on a réussi à semer le doute sur l'intention vraiment sexuelle dans un dossier d'agression sexuelle. Mm-hmm. Où il y a une question de crédibilité qui fait défaut. Où on voit qu'il y a une défense qui pointe à l'horizon. Bien, souvent, c'est là que le ministère public, le DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales, décide de régler en voie de fait simple ou un chef de 810. J'ai réglé une agression sexuelle récemment sur un 810 qui, somme toute, représente une absence de casier judiciaire. Donc, il peut avoir plusieurs raisons. Okay. Mais si la couronne décide de retirer, c'est pas parce qu'elle pense... Normalement, ce n'est pas parce qu'elle pense qu'elle manque de preuves, parce qu'au préalable, quand vous portez une plainte, vous devez être convaincu, moralement et déontologiquement parlant, que okay. vous avez suffisamment de matière pour faire minimum citer l'individu à procès par un grand jury. Mm-hmm. Donc ça, c'est un raisonnement qui veut dire tu vas pas à la chasse avec rien. Un exemple, Jean-Claude Lauzon. Ou Gilbert Rozon,
oui.
C'est un autre type. Gilbert Rozon, on a décidé de ne pas porter plainte dans des dizaines de cas.
Mais c'est vrai.
Je dis des dizaines, là, je suis sur toute réserve, mais dans au moins une dizaine de cas, on a refusé de porter plainte parce qu'on croyait qu'on n'avait pas assez de bagages pour aller de l'avant avec ça. Mm. Donc, cette décision-là s'est prise au départ. Il n'y a même pas eu de comparution. Dans le cas qui nous occupe, l'individu, le médecin a comparu, s'est rendu à la cour, a été médiatisé outre mesure. Donc, ça crée des dommages collatéraux. Il y a bien des gens qui vont continuer. On connaît le tribunal populaire à dire, ben oui, c'est la justice, c'est ça, l'argent, blablabla, blablabla. Bla. Parce que cet individu-là n'est pas médecin. Puis ce dossier-là, on n'en parle peut-être pas, là.
Des gens comme ça qui sont dans la population, un médecin, un professeur, des trucs comme ça, on n'aurait pas intérêt à garder ça plus confidentiel, les procès, au cas, justement, qu'il arrive quelque chose comme ça?
Le droit criminel est d'origine britannique, de la common law, et c'est un droit qui est public.
Okay.
Le droit du public de savoir.
Oui.
C'est pour ça que vous avez Kyriel, une pléthore de journalistes qui suivent les débats judiciaires, un peu moins aujourd'hui qu'avant. Mm-hmm. On dirait que les médias électroniques ont atténué un peu la présence des journalistes parce qu'il y a une époque où on avait 6-7 à tous les matins. Ça devenait du pain quotidien, il fallait leur parler. Pas tout le temps, là, quand ça nous tentait ou quand on pouvait le faire. Mais
qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui ont été accusés à tort? Là? Je dis pas que lui est accusé à tort, mais ça arrive là qu'il y en a qui sont accusés à tort. Mais on le sait bien qu'avec les médias, leur vie a été détruite, perdu leur job, perdu leur femme. On les laisse-tu pourrir comme ça?
Est-ce
ou ils ont une compensation ou du soutien?
Oui, c'est ça.
Ah, j'ai vu un cas récemment, un cas que j'ai connu, où la couronne a perdu son procès au terme d'un verdict d'acquittement.
Okay.
C'est pas un retrait de plainte. Parce que s'il y a un retrait de plainte, moi, j'ose croire que la couronne n'avait plus les moyens d'aller de l'avant par rapport à sa victime. Ça peut être ça. Ça veut pas dire que c'est ça, là. C'est parce que ça peut aussi être l'avocat de la défense qui a présenté des éléments pertinents qui font reculer le ministère public. Parce que vous avez un client qui peut être accusé. Et 6 mois plus tard, vous avez un témoin qui vient mentionner à la cour que la victime lui a dit telle affaire. Ben ça, vous organisez pour avoir ça en preuve, en documentation ou de quelque manière que ce soit. Vous présentez ça à couronne. La couronne présente ça à sa victime. La victime dit « OK, c'est beau. Moi, je veux plus aller de l'avant avec ça. Je vais me faire détruire, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Parce qu'il y a de la nouvelle preuve. À ce moment-là, dans le dossier où il y a eu verdict d'acquittement, là, je fais des grands détours, la défense, l'accusé a poursuivi le ministère public et a poursuivi la victime. Le ministère public a été blanchi, la police a été blanchie parce qu'il y avait suffisamment de matière pour aller de l'avant et ils ont cru la victime au préalable. Donc, ils ne pouvaient pas penser que la victime mentait. Donc, ils étaient de bonne foi. Parce que pour faire condamner le gouvernement ou un de ses commettants, ça prend pratiquement une faute lourde.
Ouais, il faut qu'il ait manipulé une preuve ou quoi que ce soit.
Pour vulgariser, il faudrait qu'il y ait de la mauvaise foi.
Ouais.
Une fausse victime qui fait ça, par exemple, est-ce que les
conséquences
sont sévères?
Ben, les victimes qui font ça, c'est pas une... Dans le cas que je te
une
parle...
Une fausse, là, je parle. Là. Quelqu'un, je pense que c'était monté de toute pièce, là.
Ben oui, si c'est un parjure, puis vous, on met en preuve que vous avez tendu un traquenard pour faire incarcérer quelqu'un à son désavantage ou aux dames de la situation, c'est sûr que vous vous exposez à ce moment-là à une peine très sévère. J'ai vu des années de pénitencier pour ce genre de crime-là.
OK, jusqu'à là.
C'est souvent des femmes vengeresses ou...
Oui.
Bon, je dis des femmes, là, je veux pas être accusé de discrimination, mais c'est souvent le cas. Comme en matière de voies de fer, j'ai vu des victimes moi, se donner des coups de bouteille dans la figure pour faire passer ça pour un voie de fer lésion.
On voit ça dans les films, tu sais.
On voit ça dans la vraie vie, là.
Oui, ils prennent ça à quelque part.
Il y a 90... C'est un iceberg, ce que vous voyez, là. Mm-hmm. 90% des dossiers qui se règlent, vous n'entendez plus ou moins parler.
C'est vrai.
Oui, c'est des ententes entre les deux parties. Puis,
Comme accusé, j'ai un choix. Soit que je le fais déclarer médiatique au coton pour crier mon innocence, ce qui était le cas du docteur Paradis, selon moi, ce qui est une bonne décision. C'est une décision qui se prend avec l'avocat. Ou on décide de laisser passer ça, laisser dormir l'eau. C'est régulier que je règle des dossiers, puis que souvent, il y a des retraits de plaintes. Et l'individu, ni vu ni connu, des gens très, très, très connus dans la région qui ont passé par là.
Oh, oui, souvent, des gens qui plaident coupable en disant, ben aller en procès, je risque pire que de plaider coupable.
Que si je plaide coupable tout de suite?
Plaider coupable, c'est un autre dossier, parce que si tu plaides coupable, ben tu l'as fait.
Mm-hmm. C'est ça, normalement.
Oui, mais ça fait qu'on n'entend pas parler parce qu'il n'y a pas de procès, là, en plaidant coupable. Ça,
ouais,
souvent, c'est rapide.
C'est moins intéressant, c'est sûr. Ça captive moins l'intérêt public. Vous savez, un dossier comme Marc-André Grenon, si l'individu plaide coupable, on connaîtrait pratiquement pas le nom.
C'est vrai.
Là, si vous nommez Marc-André Grenon, après 8 semaines de procès, des procédures...
On sait c'est qui. Appel,
vous savez c'est qui. Ça il y a une taxe d'amusement qu'on appelle dans le milieu. Là. Si vous voulez faire un procès, prenez vos aplombs puis soyez sûr de vous-même parce que ça laisse des stigmates, ça laisse des traces... je connais des gens, moi, qui n'ont pas passé à travers le processus judiciaire parce que c'était trop lourd, c'était trop difficile.
Oui, effectivement.
Parfois, malheureusement, le travail de l'avocat de la défense, travailler suffisamment fort, aller chercher des éléments pour que ça bénéficie à votre client, pour qu'on soulève un doute, qu'on transmette ça au ministère public, qu'on finisse par avoir un retrait de plainte, ce qu'a obtenu Maître Fradette dans le dossier du docteur. C'est de l'essor de la défense et c'est souvent ce travail-là qui amène des résultats positifs.
Charles,
je suis prudent dans ce dossier-là parce
oui.
qu'il y a ouais. plusieurs possibilités, mais ouais. si la Couronne décide de retirer, c'est pas parce qu'elle va dire publiquement qu'elle s'est trompée puis elle regrette beaucoup, là. Non.
Au moins au Canada, on fait pas comme aux États-Unis, c'est de donner de l'argent puis de dire bon, on éteint la patente puis règlement hors cours entre les deux parties.
Il y a des cas où il y a eu des montants versés par rapport à des fausses accusations. Mais on est dans le domaine de l'erreur judiciaire. Là. Un individu qui va faire 10 ans de pénitencier puis qui va avoir un témoin qui sort de nulle part, que la défense va saisir au passage et qui va lui faire des affidavits, qui va aller chercher la preuve entourant ces nouveaux éléments et vous allez obtenir... des libérations où vous allez être gracié par le gouverneur général ou bon, c'est de longues procédures, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on okay. parle.
Sujet.
Parce que vous me parlez de dossiers qui finissent par rien, c'est-à-dire par
ouais.
non-accusation, acquittement, retrait de plainte ou arrêt des procédures. Tout ça embarque dans le panier des poursuites potentielles, mais c'est très, très, très difficile.
Charles Quentin, on pourrait discuter encore de ce sujet très intéressant dans une prochaine oui. chronique. C'est tout le temps qu'on a ce matin. Je te souhaite une bonne fin de semaine.
Yes.
C'est bon.
Au revoir.
Merci. Maître Charles Quentin qui revenait donc sur ce dossier, revenait de la manière que ça fonctionne et les conséquences que ça peut amener aussi. Il y en a. On va aux petites vite et tout juste après, on a le chef du Bloc québécois qui est avec nous, M. Yves-François Blanchet.
Les petites vites de Jean-Claude Gélina, une présentation de la boucherie Daniel et Rémy, rue de l'île Chicoutimi-Nord. À la boucherie Daniel et Rémy, comme le dit Régent de Terrebonne, on travaille pas à cochon, mais on a du maudit bon porc.
Pour partir la journée du bon pied, le 92.5 vous accompagne dans la bonne humeur et vous livre toute l'actualité. Sur les ondes de votre radio 100% régionale, voici votre émission matinale.
Je pense qu'il va en avoir plusieurs et qu'il va avoir le 4,5 dans la tête aujourd'hui.
Ah oui, le matin.
Notre prochain invité, écoute, on est très content de l'avoir. Très patient. Ouais. Bien, merci on beaucoup de sa patience. Mais le sujet avec Charles Quentin était quand même très intéressant et pertinent aussi. Mais il sera intéressant de discuter également avec lui. On l'avait reçu en émission il y a déjà quelques mois. Il est le chef du Bloc québécois à la Chambre des communes à Ottawa. Yves-François Blanchet qui est avec nous. Monsieur Blanchet, bienvenue.
Bien le bonjour, je vais me chercher un 4,5.
Oui.
Heureusement, ils ne sont pas à ce prix-là ici.
Non, ils sont un petit peu moins cher.
Légèrement.
Monsieur Blanchet, vous êtes de passage dans la région pour, d'abord hier, la présentation de votre candidat dans Chicoutimi-le-Fjord, Marc Saint-Hilaire. Ici, Marc Saint-Hilaire, on le connaît, en fait, on le lit beaucoup à travers le quotidien.
Oui.
Mais de votre côté, comment s'est fait le premier contact avec Monsieur Saint-Hilaire?
Par l'entremise, d'abord de... C'est ce genre de choses, on dirait que ça circule un peu, l'idée vient, quelqu'un t'en parle, en parle à Mario, à Alexis, les gars m'en parlent à leur tour, puis éventuellement, le contact se fait. Mais le charme de la région ici, c'est que beaucoup de gens connaissent beaucoup de gens, tu finis par croiser, puis tu en parles un peu. Fait que je connais pas la mécanique précise entre les gars et Marc. Éventuellement, ça s'est rendu à moi, et naturellement aussi, j'ai trouvé que c'était une sacrée bonne idée, parce que le gars, il a un CV, une expérience, et beaucoup, beaucoup, une connaissance fine de tous les dossiers de la région. Évidemment, c'est son travail. Il était obligé de les connaître, les dossiers. Il était obligé de les analyser, de pouvoir les commenter, de se faire une idée sur par où ça devrait aller. Puis éventuellement, bien, son raisonnement, c'est que la bonne direction que ça devrait prendre, c'est la direction essentiellement de ce que le Bloc propose. Fait que c'est avec nous autres qu'il a décidé de s'engager. Plus, bien sûr, le fait qu'il pense que la souveraineté du Québec est une solution qu'on doit considérer.
Avec la politique d'aujourd'hui, avec les médias sociaux, avec tout ce qu'on garde d'archives, est-ce que c'est pas un peu risqué de prendre quelqu'un qui était un éditorialiste pendant longtemps, donc qui a donné son opinion sur le gouvernement? Est-ce que vous avez épluché tout ce qu'il a fait pour être sûr que tout était dans votre ligne de pensée?
Je n'ai pas besoin de faire ça, parce que ses opinions à lui, ou même les miennes, si vous allez voir ce que j'ai déjà publié, ce que j'ai déjà dit, vous allez voir que les opinions, ça évolue, ça peut changer. Ça peut même changer de façon importante. Si on prend, prenons l'exemple ultime, prenons l'exemple de la souveraineté du Québec, bien, à un moment donné, il y avait personne qui pensait que c'était une bonne idée. Mm-hmm. Puis chaque personne qui finit par penser que c'est une bonne idée, c'est parce qu'elle a changé d'idée, mm-hmm. parce qu'on a évolué, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a discuté. Donc, je pense que c'est comme ça que ça se produit. Je ne m'attendrai pas à trouver rien de bien terrible dans les antécédents de ce que Marc a écrit. Je présume que lui est allé voir ça, là, mais je ne m'attendrai à rien de particulier et que les gens aient déjà eu des opinions différentes des miens ou différentes de ceux du parti ou de ce qu'eux-mêmes expriment maintenant. Pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Il ne faut pas faire semblant d'être pur et d'être né pour ça de façon naturelle sans jamais avoir évolué.
Oui. Donc, Marc Saint-Hilaire va se buter quand même à un candidat de taille dans Chicoutimi-le-Fjord, M. Richard Martel. Selon vous, pourquoi les gens de Chicoutimi-le-Fjord devraient opter pour le Bloc québécois?
En fait, ce n'est pas la taille de la candidature. D'abord, la taille de la candidature, ça se mesure au résultat, ça se mesure à l'engagement, ça se mesure à ce qui a été fait et dit. Et sans manquer de respect à M. Martel, qui a sûrement d'autres fortes, intéressantes qualités, souvent, c'est les gens du Bloc des autres comtés qui ont pris en charge ses propres dossiers, ses propres interventions dans les dossiers de la région sont soit inexistantes, soit très tardives. Alors, il y aura des débats, puis au moins à partir de maintenant, ça ne sera plus des interventions par personne interposée, que ce soit Mario ou Alexis ou moi. Il y aura Marc Saint-Hilaire qui pourra intervenir directement, débattre directement avec M. Martel. Et je me permettrai de dire que ce n'est pas une bonne nouvelle pour Richard Martel, parce que Marc a une connaissance, comme je le disais, assez exceptionnelle des dossiers, et il n'est pas le genre à attendre que quelqu'un d'autre règle les problèmes pour lui.
Ce sera intéressant de suivre ça en campagne électorale qui approche. Ça pourra arriver plus vite qu'on pense. Du côté d'Ottawa, les travaux ont recommencé. Et vous avez donné une date butoir au niveau du gouvernement et du Parti libéral. Cette semaine, vous avez passé, la hausse de la pension de la sécurité de la vieillesse pour les aînés de 65 à 74 ans. La motion a passé, a été adoptée aux communes. La quasi-totalité des libéraux se sont opposés. Il y en a peut-être qui se sont levés. Avez-vous été surpris du vote?
Pas totalement surpris du vote. On s'attendait à peu près à ça.
Okay.
Les libéraux ont plus ou moins donné le choix aux députés qui ne sont pas des ministres quant à la façon dont ils allaient voter. Et ça a fait en sorte qu'il y en a quelques-uns qui ont voté avec nous et, de façon notable, Pablo Rodriguez, qui jusqu'à tout récemment était un ministre libéral,
oui,
qui est maintenant un indépendant, qui a aussi voté avec le Bloc québécois. Un principe qu'on oublie souvent, c'est que les gens élisent des députés dans un Parlement. Et c'est à partir des députés dans le Parlement que le parti qui a le plus de sièges forme un gouvernement. Alors, quand le Parlement exprime sa volonté, et là, le Parlement a clairement exprimé sa volonté que les demandes du Bloc en matière de traitement des aînés soient réglées, soit dans le sens de ce qu'on a proposé. Et malgré tout, le gouvernement se fait tirer l'oreille, tergiverse, tarde. Là, il risque de devoir accélérer sa démarche parce qu'un sondage qui a été publié hier disait que 79 % pas des Québécois, des Canadiens, incluant les Canadiens de l'Ouest, là, 79 % des Canadiens sont d'accord avec les demandes du Bloc en matière de traitement des aînés. Puis c'est pas... D'abord, ce n'est ni une dépense frivole, et ça ne doit pas être une dépense frivole parce que même les conservateurs, qui se disent les champions de l'équilibre budgétaire, sont en faveur de notre démarche. Puis deuxièmement, parce que l'argent dont on a besoin, c'est de l'argent qu'on donne à autre chose. On donne 12, 10, 11, 13 milliards de dollars par année pour les pétrolières de l'Ouest qui n'ont assurément pas besoin de cet argent-là. C'est comme un soutien à une industrie qui est déjà très, très, très prospère, très riche, plutôt que de donner ça à l'échelle canadienne, 4 millions de personnes qui en ont besoin. Juste au Québec, c'est 1 million de personnes qui ont cette aide pour les retraités qui vient du gouvernement du Canada et qui ne va pas à ceux qui sont riches, là, qui va à ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, la partie financière de la chose n'est pas vraiment en jeu. La partie du principe de l'équité. Le gouvernement a décidé d'augmenter la pension des aînés de 75 ans et plus. Mais il a dit, ceux qui ont 65 à 75, vous êtes des travailleurs, des citoyens comme les autres, mais vous autres, vous ne l'aurez pas. Et ces gens-là ont vu, puis vous pouvez en parler à n'importe qui autour de vous dans la région, là, ces gens-là ont vu depuis avant la pandémie, durant la pandémie, puis avec l'inflation qui a suivi la pandémie, ont vu leur simple pouvoir d'achat pour aller acheter du lait et du pain. Là. Ils ont vu leur pouvoir d'achat être gravement diminué et le gouvernement n'est pas intervenu pour les aider.
Vous aviez une deuxième demande aussi pour jusqu'au 29 octobre, me semble, non?
Oui, la gestion de l'offre. Ça fait, mon Dieu, depuis que je suis arrivé, donc on parle d'il y a 5 ans, au-delà de 5 ans, qu'on demande que la gestion de l'offre ne soit plus incluse dans les traités commerciaux. Parce qu'à chaque fois, les gouvernements promettent de ne pas mettre la gestion de l'offre dans les traités commerciaux. Donc, ce modèle qui protège la qualité, le côté sanitaire, le prix de l'offre en produits laitiers, volailles ou œufs québécois et canadiens, ben c'est protégé parce que les Américains n'ayant pas les mêmes pratiques, c'est moins sanitaire, c'est l'usage d'antibiotiques ou d'autres procédés sont faits aux États-Unis, ils ne sont pas faits ici, ben ça nous coûte plus cher, ça nous fait un système qui est différent.
Tout à l'heure, vous avez parlé
ça nous fait un système qui est différent, ça nous fait un système qu'on doit protéger. Donc, on dit... Il faut arrêter de faire en sorte que la gestion de l'offre soit dans les traités commerciaux pour que les gens qui sont dans le milieu agricole aient de la prévisibilité. Arrête de voir le 2-3 % du haut de leur revenu, là, la petite partie qui pourrait être un profit, être sacrifiée au bénéfice de d'autres secteurs de l'économie. À date, ça ne s'est jamais avéré de bien payant. Puis les chiffres révèlent que ce qu'on a cédé en Europe pour les fromages, c'est plus que la totalité de la production de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Et est-ce que vous croyez que ça va se faire avant la date butoir?
C'est très difficile à dire. Oui. Avec l'appui que le sondage d'hier indique, les libéraux doivent se dire que s'ils nous donnent ce qu'on veut, ils vont se reprocher au Canada d'avoir concédé quelque chose aux méchants Québécois. Mais s'ils ne nous le donnent pas dans la mesure où on a un très puissant appui au Canada, peut-être sans précédent du côté du Bloc québécois dans l'histoire, sur une de nos démarches, une de nos propositions, ce serait très embêtant pour le gouvernement de ne pas nous le donner. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est très dur à dire, mais il y a plein d'options. D'abord, il peut déclencher des élections lui-même. Il peut proroger le Parlement, donc cesser les travaux du Parlement jusqu'en 2025. Il peut faire de nouveau une entente avec le NPD, parce que leur séparation est un peu incertaine. Vous savez, c'est un mariage, puis ils ont décidé de mettre fin au mariage, mais là, on se demande si c'est vraiment une séparation ou il y en a un des deux qui dort simplement sur le divan du salon. Là. On va voir ça dans les prochaines semaines. Il y a plein d'options pour le gouvernement, mais une des options, c'est de donner ce que le Bloc et les retraités et l'ensemble de la population du Québec et du Canada semblent souhaiter en termes de traitement des aînés.
Monsieur Blanchet, depuis déjà un petit bout de temps, on jase beaucoup de subventions qui sont octroyées par les gouvernements aux entreprises. Vous avez parlé tout à l'heure des pétrolières, on parle le dossier de Northvolt et tout ça. Et de plein de petits montants qui sont octroyés ici et là, alors que les gens se disent « Ouais, puis nous autres, il reste quoi? » Le Bloc québécois, qu'est-ce qu'il pense justement de ces subventions onéreuses qui sont données aux grandes entreprises?
Il y a deux principes qui doivent s'appliquer. Le premier, il faut que ça rapporte tout ce que ça coûte.
C'est
si ce qu'on donne à une entreprise pour qu'elle choisisse de s'installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean plutôt que dans le Massachusetts, mais il faut que rapidement, en termes de retombées par les emplois, par la contribution fiscale des travailleurs qui vont occuper ces emplois-là, par la contribution fiscale de l'entreprise, par l'effet structurant sur l'économie, là, il faut être certain que ça nous rapporte plus que ce que ça va nous coûter puis qu'on va récupérer tout ça à l'intérieur d'assez peu d'années. Sinon, ça devient du gaspillage d'argent. Maintenant, il y a une espèce de concurrence qui s'installe. Toi, tu veux obtenir une entreprise ici, mais ton voisin, il est en Ontario, ou ben non, il est à Boston, puis il dit « moi, si je le veux ». Et là, tout le monde se met à surenchérir. Les entreprises s'assoient sur leurs mains et attendent que ça atteigne des niveaux affolants, comme c'est peut-être le cas de Northvolt, puis je le dis même si c'est dans ma circonscription, là, et que ça ne devient pas nécessairement payant pour la société. Est-ce que Northvolt est un bon choix ou pas? On pourrait en débattre. Moi, j'essaie de les rencontrer encore une fois, mais ils sont moins faciles à rencontrer depuis un certain temps. Ils ont des problèmes. Il faut réussir à faire en sorte que les différents pays, les différents États, les juridictions disent « OK, on arrête cette course-là, on arrête cette surenchère-là parce qu'on se retrouve tous à prendre l'argent de nos contribuables, à le donner à des entreprises avec l'impression que ça ne reviendra jamais, là, que ça s'en va dans les poches des actionnaires de ces entreprises-là. »
Surtout qu'au Canada, on n'a pas le pouvoir que les Américains ont, parce que les Américains ont construit récemment 39 milliards de bâtisses pour les puces électroniques. C'est dur pour le Canada d'essayer de surenchérir sur ça.
Oui, mais c'était géopolitique beaucoup. C'est parce que l'Asie et la Chine en particulier représentent un enjeu important en matière de microprocesseurs. Par contre, le Québec est souvent très concurrentiel. L'électricité du Québec, notre capacité à avoir des blocs d'électricité a beaucoup, ce qui est moins évident à court terme parce que la planification d'Hydro-Québec a été un peu déficiente pendant plusieurs années, mais il reste que pour le Québec, c'est un avantage considérable. Les expertises qu'on a développées, l'économie verte, c'est des forces pour l'économie du Québec qui fait qu'on est encore très, très concurrentiel pour attirer des entreprises, mais encore la même chose, à la condition que lorsqu'on donne quelque chose à une entreprise pour qu'elle vienne s'installer chez nous, que cet argent-là revienne avec une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on a investi. Et c'est comme ça qu'on peut structurer notre économie et pas en faisant des cadeaux qui s'en vont dans les poches des actionnaires, comme ce que le fédéral donne aux compagnies pétrolières qui s'en mettent plein les poches et polluent et sont largement responsables des changements climatiques dont on subit les effets.
Monsieur Blanchet, vous êtes de passage dans la région, non pas seulement pour l'investiture, en fait, pour la présentation de Monsieur Saint-Hilaire, mais vous allez faire beaucoup de rencontres aujourd'hui. Il est question des forêts, il est question de phosphate également, il est question au niveau d'agriculture, quand même des rencontres importantes qui touchent énormément la région.
Oui, agriculture, on en a parlé souvent, il y a des suivis à donner, notamment sur le fait qu'on a mis le point sur la table concernant la gestion de l'offre. La forêt, c'est une espèce de survol qu'on va faire. J'ai commencé à travailler, à retravailler là-dessus très, très tôt ce matin. Une perspective à court terme, moyen, long terme, avec la menace à court terme, bien sûr. Bon, l'enjeu du caribou forestier, oui, à court terme, est moins une menace. La menace de décret qui aurait fait perdre de nombreux emplois n'existe plus. Et sans dire qu'on est les seuls responsables, c'est assurément un rôle important du Bloc québécois qu'il faut reconnaître là-dedans. Si on n'avait pas été là, jamais Stephen Guilbeault aurait reculé. On est content d'avoir contribué à sauver les emplois. Maintenant, il faut quand même aborder à moyen terme l'enjeu du caribou. Et ça doit se faire dans une perspective qui tient compte changement climatique, forêt, insectes, feux de forêt, pardon, insectes, plein de défis environnementaux pour les forêts et le développement d'un modèle qui soit durable pour les forêts. Il y a une réflexion, là, des moyens qu'il faut donner, un soutien à l'entrepreneuriat, une transition vers des nouveaux modèles sans qu'il n'y ait jamais de perte d'emploi, mais bien un remplacement ou une augmentation des emplois à plus forte valeur ajoutée, une meilleure richesse pour la région. Fait que pas juste ce qu'on a sur le bout du nez parce que c'est demain matin, mais une vision à plus long terme. C'est un peu l'esprit de notre réflexion. Puis sur le phosphate, c'est un bel exemple de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de vision économique à partir des ressources naturelles de la région. Comment on peut travailler à la transformation, justement à la création de valeur ajoutée, la création d'une expertise régionale en matière de phosphate reconnue grâce au travail de Mario Simard du Bloc québécois, d'ailleurs, comme minerai stratégique.
C'est vrai.
Bref, il y a des enjeux qui sont extraordinaires à regarder. Les problèmes à court terme, les perspectives à long terme, c'est encore une fois l'esprit du déplacement ici.
Monsieur Blanchet, merci beaucoup d'avoir pris du temps dans cette grosse journée pour nous parler ce matin.
Oui.
Ben, c'est un plaisir, comme toujours.
À la prochaine.
À bientôt.
Yves-François Blanchet.
Peut-être à très bientôt.
À très bientôt, mais oui.
Si le gouvernement ne donne pas la deuxième condition.
Il a dit que ça risque d'être difficile. Il ne sait vraiment pas qu'est-ce que pourrait être la réponse au niveau du gouvernement.
Par contre, il est fort en politique, Trudeau. Parce qu'il ne voulait pas voter pour...
Non.
La
pension, là, oui.
Mais en disant à ses députés, ben, votez selon votre cœur. Il s'en est assuré que ça allait passer sans que lui le vote.
C'est ça.
Ouais, oui.
Politiquement, c'est brillant.
Ouais.
Vous direz ce que vous voudrez contre Trudeau, là.
Il brillant.
La game politique, là, il l'a bien joué, celui-là. Là.
Je pense que ça doit être celui qui est le meilleur. On est capable d'avoir des échanges avec lui, là.
Oui, très
bien. C'est toujours simple,
c'est toujours
quand
clair.
Même.
Ça tourne jamais en rond.
Non.
Puis... qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais c'est un politicien.
Oh. J'y lève mon chapeau. Puis il nous a donné des preuves qui ont dit que certaines idées du Bloc sont appréciées, pas seulement ici au Québec, mais à travers le Canada. En disant, hey, c'est pas bête ce que vous faites, c'est pas bête ce que vous amenez.
Ben,
l'idée de la pension de vieillesse,
c'est,
là,
ça que
c'est sûr qu'il n'y a pas quelqu'un en Manitoba qui dit, hey, ça n'a pas de bon sens, mais non, moi, je veux mon chèque.
Ils sont comme ça. T'sais.
Nicolas Gagnon nous en parlait, puis c'est un des avantages du Bloc, c'est que tant donné qu'ils ne sont jamais au pouvoir, ils n'ont pas à faire le show pour devenir au pouvoir.
Ça,
donc,
sûr.
S'ils
c'est
parlent de problématiques, ils peuvent aller plus loin dans certaines problématiques
exactement.
Canadiennes ou québécoises.
J'ai même fait, t'étais pas encore arrivé, j'ai dit, c'est quand la dernière qu'on a eu le plus de choses au Québec du Canada? C'est quand le Bloc était très fort.
Il était l'opposition.
Il était l'opposition officielle.
Avec Jean-Jacques
parce qu'il n'y avait pas le choix de donner au Québec, sinon il débarquait. Fait que tu sais, on va-tu... Ça vient embêtant, hein? Pour voter pour nous. Là,
le problème, c'est qu'il faut être plusieurs. Si t'es pas plusieurs, là, tu deviens...
C'est ça. Mais tu sais, on regarde les sondages présentement, le Bloc prend beaucoup de place.
Mais c'est ça,
là.
C'est ça, exactement. Oui. On a eu une certaine époque où le Bloc était 6-7, il n'y a pas si longtemps.
Oui.
M. Blanchet, depuis son arrivée, a remonté ça. On est quoi, une trentaine au niveau du Bloc? Si t'es capable d'en ramener 30, 40, et que ces députés-là, comme Mario Simard, comme Alexis Brunel-Duceppe, sont sur le terrain... des voix parce qu'ils travaillent pour leur comté.
Mais
eux,
ils
ont cette force-là.
Mais il ne faut pas s'attendre à avoir des retours, par exemple.
C'est
régulier. Il faut toujours aller, il faut se battre pour aller chercher.
Mais c'est plus facile en se battant comme ça parce que là, tu sais, à 13, c'est dur de se battre pour avoir quelque chose parce
anyway.
Que ton poids politique n'est pas assez gros pour faire tomber le gouvernement.
Et le
donc,
fait...
quand ils disent non, votez contre, on s'en fout. Vous n'êtes pas assez important.
En comparaison, Saguenay, on a un quintuplé de CAQ, puis qu'est-ce que ça nous a donné à date?
Pas grand-chose.
Ah, mais là, tu parles du provincial.
Oui, provincial, mais rien pour dire quand même.
Mais l'avantage qu'on a au niveau du fédéral, c'est qu'en ayant un gouvernement minoritaire, le Bloc a un mot.
Oui.
Et surtout d'avoir 30,
surtout
40.
Surtout d'être fort.
Si... C'est ça. Tu sais, si par exemple, aux prochaines élections, tu en rentres 10, tu dis OK, oublie ça. Mais si tu en rentres 40, 45, puis tu es minoritaire, là, ils vont dire OK, le Bloc, là.
Il y a le contrôle sur le gouvernement.
Oui. Eux autres, ils vont avoir un mot à dire sur tout le reste du pays.
Ce que le NPD a eu pendant les trois dernières années.
C'est ça, je dis, c'est son minoritaire.
Parce que le NPD, en faisant une alliance avec le gouvernement et disant, tu me donnes ça,
sinon,
ça donnait la majorité au gouvernement. Tu comprends?
Mais je ne veux pas vous décevoir, mais à date, on annonce qu'ils vont être majoritaires, les conservateurs, comme ces partis-là.
Pour l'instant.
Ils n'ont pas parlé encore. Moi, je te dis, quand les.
OK.
C'est un cachet de la politique. C'est pas grave. Québec, Canada, États-Unis. Municipal, le premier d'un sondage au début des élections gagne rarement.
Moi, je pense qu'il va gagner, mais peut-être pas aussi fort.
OK.
Peut-être pas aussi fort. Puis, le pourcentage de vote ne veut pas dire le pourcentage de sièges.
Parce que s'ils sont majoritaires, tout ce qu'on vient de dire, ça arrive.
Non, c'est sûr.
Ça, c'est sûr, mais, tu sais, pour l'instant, on fait des sondages, ils ont 50% des voix. Ouais, mais combien de comtés qu'ils gagnent? Est-ce qu'ils en gagnent 30 ou 100? Parce que tu peux avoir 50% de gagner 30 comtés, puis avoir 50% d'en gagner 100.
Tout à fait.
Combien de fois on a vu, entre autres, ça a été Philippe Couillard. Philippe Couillard, lorsqu'il était élu, il est rentré majoritaire, mais le Parti québécois a plus de votes que lui.
C'est ça. Ça, il faut faire attention au sondage au Canada.
Ça veut
dire
que où il est rentré faiblement, puis où ce que le Parti québécois est rentré fortement.
C'est la même chose aux États-Unis d'ailleurs. Tu regardes les sondages, là, Trump est en avance un peu, mais où? Dans quel comté, quel État qui gagne, puis combien? Ça fait que c'est pas pareil.
Quel poids que l'État a dans.
Exact.
Avant d'aller parler avec Max, il y a quelqu'un au téléphone. On va aller lui parler tout de suite. Oui, bonjour.
Oui, bonjour les amis.
Bonjour.
Oui, ça a été une belle entrevue avec M. Blanchette. Je vous dis une chose, de comparer à Trudeau, là, vous dites qu'il y a une marche, hein? Il y a une grosse marche.
Un vrai politicien.
Tu sais, d'un monsieur qui était, il ne faut pas oublier, il était agent d'artiste avant. Il était agent, entre autres, d'Éric Lapointe et tout. Oui. Mais il a un regard au niveau de la politique très intéressant.
Ah oh, oui, oui, puis il parle bien, puis on est chanceux de l'avoir. Moi, ce que c'est que je veux dire, c'est quand il dit qu'il donne de l'argent aux pétrolières, ben c'est vrai. En plus, c'est bien mieux de leur donner aux aînés de 65 à 74. Pensez-vous, vous, que ce groupe de personnes-là va prendre, ça donne 80-82 piastres, va le prendre et serrer du tout. Il va leur mettre en circulation.
C'est
ce que les pétrolières font pas.
Mmh. Exactement.
C'est bon pour les personnes, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour tout le monde.
Absolument. Ben, ça revient à ce que je dis depuis toujours, depuis que je fais de la radio. Arrêtez de nous taxer puis donnez-nous de l'argent qu'on la dépense.
On
ça va
faire
rouler
l'économie. Voilà.
Exact. Ça fait que bravo.
Mais merci.
Moi, vous dire, il faut être un soulier, il faut un mortel, là, je pense, le voir un peu.
Ça va être une campagne intéressante à suivre.
Mais c'est pas fin, hein, parce que comme on le disait, M. Saint-Gelais, il n'est pas connu dans la population à part des articles d'éditoriaux.
Il est lu, mais il va falloir qu'il soit ce
la première fois que j'entendais sa voix, moi. Ça me donne un peu l'idée.
Il a dit une chose qui est tellement importante, qui est tellement vraie, là, ça se mesure aux réalisations.
Ben voilà.
Exact.
C'est même que ça se mesure un peu. Tiens, s'il est bon ou pas bon.
Merci d'avoir appelé.
Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée.
Bonne fin de journée.
Bonjour.
Et peu importe les allégeances politiques,
faut donner
à M. Blanchet.
À César, ce qui appartient à César. Regarde, je l'ai dit, Justin Trudeau a fait un bon move politique
aussi,
là,
oui.
Récemment là, avec ce vote-là. Et François Blanchet, ça reste un politicien hors pair. Parce que, écoute, il n'y a pas de texte là matin. Là.
Zéro.
L'avez-vous entendu ralentir, arrêter, faire
ça? On lui a pas donné aucune question.
Il dit.
Il a répondu.
Il est clair. Il n'y a pas de langue de bois. C'est ça que j'aime.
Pas tant qu'à faire la suite.
Mais c'est pas difficile. Ben. Être au bloc, là, c'est un bon. Tu sais, j'enlève rien aux qualités de l'homme. C'est facile, tu sais, de l'idée de bloc.
Ça paraît que tu n'as jamais fait de la politique. J'ai fait une session con. Hey.
Mais
arrête de dire que j'ai pas fait de politique.
Mais pourquoi?
Là.
Mais pourquoi tu dis que j'en ai pas fait aussi? Tu connais pas mon
histoire. Non, mais Wick, j'étais premier ministre. Non, non, mais t'as pas eu. Regarde. On va en pause, il n'écoutera pas de toute façon.
Mais toi, t'es fondé à CAQ, ça.
Ouais, c'est ça.
Mais j'aimerais ça vous le dire, pourquoi c'est facile? Pourquoi ce serait plus facile?
Pourquoi c'est facile de faire de la politique? Dis-moi ça. Pourquoi que si t'es pas au pouvoir,
les engagements, les engagements que tu vas prendre n'iront jamais, tu seras jamais au pouvoir. Donc, tu peux aborder de ça.
Tu seras jamais au pouvoir.
Mais le bloc,
le bloc ne sera jamais au pouvoir.
Mais il peut avoir le pouvoir d'être, comme on dit, 60 puis de décider du gouvernement.
Ben oui, ça, c'est s'ils sont minoritaires.
Ce qu'on a actuellement.
Ce qu'on a eu.
Ce qu'on va avoir. Justement.
Ça, on en reparlera. Dans quelques instants, Max Bradette.
H. Grégoire Saguenay est en mode achat. Vous voulez changer de véhicule? H. Grégoire est votre acheteur. Peu importe où vous décidez d'acheter. Maximisez la valeur de votre auto et venez nous la vendre maintenant. H. Grégoire Saguenay, c'est votre meilleur acheteur. Point final.
Ici Jean-Marc Robitaille du 92.5, votre conseiller publicitaire. Avec plus de 40 ans d'expérience, je peux vous assurer une publicité efficace, personnalisée et rentable selon votre public cible. Votre placement publicitaire au 92.5 ne sera pas une dépense, mais un investissement qui fera grandir votre entreprise. Rejoignez-moi 815-2433 ou par courriel jmrobitaille@commercial.org. Au 92.5, on pense à nos clients.
On vous a appris à marcher. On vous a appris à écrire et à compter. On vous a appris un métier, mais on ne vous a jamais appris à perdre un être cher. Le complexe funéraire Carl Savard, c'est 02-49-49.
Le 92.5 vous invite au prochain match des Marquis sur la route.
C'est le début d'une nouvelle saison pour les Marquis de Jonquière et ça débute ce vendredi 4 octobre avec une visite au Colisée de Laval contre les Pétroliers. Le 92.5 sera présent pour cette nouvelle saison dès 19h45 avec un avant-match spécial en compagnie de Dominique Bolduc et Jean-Dominique Lepage. Marquis, Pétroliers, ce vendredi 19h45 à Maradou d'ici.
Les Marquis sur la route, une présentation de l'Étoile Dodge Chrysler de Jonquière, d'Arachide Dépôt Jonquière, de Broderie Hélène, Parc industriel Jonquière, de Jean Dumas Saguenay Mitsubishi, boulevard du Royaume Jonquière, de Levaux Vitre d'Auto Jonquière, de Prévaction et de Hyundai du Saguenay, boulevard René Lévesque Jonquière.
Quand on porte des prothèses dentaires depuis trop longtemps, Dominique, on peut se rendre compte que notre visage se transforme, que mastiquer peut-être devient plus difficile.
En fait, Annick, je dis toujours que c'est pas nécessaire d'attendre de perdre son dentier en soufflant sur les bougies de son gâteau d'anniversaire pour penser à le changer. Je vous dis ça avec humour, mais à titre de denturologiste, je vous invite sérieusement à faire attention à votre bouche, à la santé de vos gencives, à votre système digestif aussi. Tout a un lien. Attendez pas que vos prothèses soient trop usées.
À la clinique Mon Denturo de Jonquière, la première consultation est gratuite et sans aucune obligation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions.
La météo, une présentation de Kia Harold Auto, 693-8050.
Prenez le contrôle de la route avec le Kia Sportage 2025 de chez Kia Harold Auto. Le plaisir de conduire intégral. Maintenant disponible chez Kia Harold Auto, 418-693-8050. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
92.5. Météo!
Côté de la météo aujourd'hui, des nuages avec de la pluie en après-midi, maximum de 14. Pluie qui va se poursuivre ce soir et cette nuit. Demain, samedi, alternance soleil et nuages, maximum de 17. Des nuages dimanche, maximum de 16. Pluie pour lundi, maximum de 11, et pluie intermittente mardi et mercredi, des max de 6 et 8. On a 12 au Saguenay, 9 au lac.
Ma radio d'ici. Le sport, presque une religion, plus qu'une passion. Place au sport avec Max Bradette. Max Bradette. Max
Bradette. On lance ça ce soir, cette nouvelle saison de la Ligue nord-américaine. Puis quoi de mieux qu'un match entre les Marquis de Jonquière et les Pétroliers de Laval au House of Pain, le fameux Colisée de Laval. Max, ça va être un match intéressant. J'ai hâte de voir combien il va y avoir de monde parce que les gens, je me souviens, dernier match de la saison, l'an dernier à Laval, c'était plein. Colisée, il y avait 3000 personnes. Mais les Pétroliers ont laissé un goût amer aux partisans, encore une fois, en série. Comment les gens vont répondre cette année, selon toi?
Ben, écoute, moi, je pense que Laval est après à faire son chemin. Le travail qui a été fait par la gang à Lucien Paquette et l'organisation du Colisée également, ils ont fait un travail énorme là, avec cette équipe-là. Parce que quand même, pour emmener une moyenne, en tout cas un 2000, 1800, 2000, aller jusqu'à 3000 personnes, il faut leur lever leur chapeau. Parce que ce n'est pas un marché facile ici à Laval, là, Dominique. Tu as de la compétition.
Oui.
Là, tu as les croquettes qui vont commencer bien vite. Tu as le hockey féminin qui va s'en venir dans quelques semaines. Puis qu'ils réussissent à emmener, il faut toujours qu'ils innovent. C'est vrai que du côté de la patinoire, ben il y a du travail à faire. Ils ont déçu, pas rien que l'année dernière, ils ont déçu l'année d'avant aussi, là, si tu te souviens bien. Les deux dernières années, on les voyait comme l'équipe de l'heure dans la Ligue nord-américaine. Ils l'ont été pendant la saison. Malheureusement, dans les séries, ça s'est gâté. Ben, il y a d'autres équipes également qui veulent gagner le championnat. Oui. Et je te dirais que oui, il va y avoir une réponse. Ce soir, je m'attends peut-être s'ils sont chanceux, une foule de 15 à 1800 personnes serait très, très bonne pour le début de saison. Ça serait très, très bonne parce qu'il faut quand même que tu crées une atmosphère de hockey. Il faut que les gens reviennent au Colisée, ce qui n'est pas une tâche facile là, avec les autres divertissements, mais avec également la publicité que bénéficie le Canadien et là, le Croquette de Laval également. Tu as les séries au baseball également qui joue un certain rôle, même si les gens pensent que plus personne ne regarde le baseball, je m'excuse, mais il y en a encore beaucoup qui le regardent. Là. Ça fait que je pense que c'est un bon test. Et si tu as entre 15 et 1800 personnes au Colisée de Laval ce soir, ça va être une réussite. Rappelle-toi, on parlait de foule de 500, 600, 700, là, pas terriblement longtemps. Là. C'est de ça qu'on parlait. Ça fait qu'il y a une belle progression. Par contre, les gens vont aller voir. Vont se donner un goût. Et les pétroliers n'ont pas la chance de mal jouer, n'ont pas la chance de donner une performance qui va laisser leurs spectateurs, leur base de fans, parce que t'as au moins 500 à 600 fans à Laval, là, que c'est des inconditionnels. C'est ce qu'on appelle les crinqués, autrement dit. Là. Eux, il faut qu'en partant, tu leur fasses plaisir. Et puis, que tu le veuilles ou non, Dominique, c'est eux qui attirent les foules à la longue.
Oui.
Parce que tu vas voir, tu es à Laval, tu vas voir le spectacle sur la patinoire, bien sûr, mais tu vas voir ce qui se passe dans les strates. Ça, on n'ose pas le dire. Mais toi-même, tu le sais, tu es venu souvent à Laval, puis souvent, tu as autant un spectacle dans l'aréna que tu en as sur la glace, là. Et puis, ça, c'est une quantité non négligeable. Et puis, c'est sûr que les pétroliers, ce soir, se doivent de sortir une performance qui va laisser présager que cette année encore, ils vont être la formation à battre dans la ligue nord-américaine. Puis, si tu as fait l'analyse des autres formations, je pense que Laval va être encore établi favori pour gagner le championnat. Peut-être que je me trompe.
Il y a des bonnes chances. Écoute, puis en plus, hier, ils ont fait... Ce que j'ai aimé cette année, du côté du travail de Lucien Paquette, et ça s'est fait jusqu'à hier, il y a eu deux transactions, en fait, une transaction avec la formation de Saint-Hyacinthe, c'est que là, on est allé chercher des winners, des gars qui ont gagné. Alexandre Quesnel, ancien capitaine des Marquis, se retrouve maintenant à Laval, et on dit qu'il va être disponible quand même assez souvent. Et Yannick Tifu, qui a gagné à Saint-Georges, qui se retrouve maintenant à Laval, qui, ces deux winners, ce qui manquait peut-être dans l'organigramme des pétroliers?
Ce qui manquait, et ce qui manque souvent, ce qui a manqué souvent à cette équipe-là dans les deux dernières saisons, je te dirais, c'est la stabilité. Et Lucien Paquette a les défauts de ses qualités. Souvent, quand ça va bien, que le bateau vogue tranquillement vers sa destination, il a le don de faire une transaction où... prendre une décision à laquelle tu peux mettre un point d'interrogation. T'sais, on dirait qu'il brise en quelque sorte sa chimie. Et puis les pétroliers, là, je m'excuse, mais l'année dernière, quand tu regardais jouer, tu pensais véritablement qu'il allait voguer vers le championnat. Mais il y a eu deux, trois décisions de la part de l'organisation de Lucien qui ont fait, ben, qui sont venus dans la lutte, autrement dit, qui ont brisé un peu cette chimie-là. S'ils ne font pas ça cette saison, je crois véritablement qu'ils ont les éléments. Ben, de toute manière, ils ont les éléments pour gagner, mais une chose qui est sûre, c'est que les pétroliers, partout où ils vont, ne laissent aucune équipe, aucun spectateur des autres arénas indifférent.
On va suivre ça ce soir du côté de Laval, mon cher Max. Oui, puis je serai présent pour la description du match. J'ai bien hâte de voir cette rencontre Pétrolier-Marquis. On note 19h45, émission d'avant-match en direct du Colisée de Laval. Puis Max, je te souhaite une bonne fin de semaine, puis on se reparle lundi.
À lundi, puis c'est sûr que les amis qui vont être là, ce ne sera pas ennuyant. Puis surtout que notre ami Dominique revient à ses anciennes amours. Mm-hmm. Fait que ce ne sera pas du hockey partisan du côté de ses coges.
À suivre! Salut mon Max!
Rapidement, avant d'aller au week-end, il y a un employé du cégep de Valleyfield qui aurait été poignardé par un homme qui a mis le feu à l'établissement. C'est pour ça qu'on voit les images là, ce matin à TVA du feu
au
cégep. Poignardé au cou.
Au cou?
Heureusement, elle se trouverait dans un état stable, mais évidemment... Il n'y a pas de lien avec le cégep. C'est un gars avec des santé mentale.
Et on voyait, il y avait de la fumée qui sortait d'un bâtiment.
Il l'a poignardé et il a mis le feu.
Tellement de gens devraient être dans des hospices à quelque part. Se faire tellement, aider, là. Au lieu des avoir de même comme ça.
Non, c'est ça le coup. On dit c'est quoi le coût des gens en santé mentale qui devraient être enfermés qui ne le sont pas? Ben c'est ça.
C'est ça.
Quelqu'un de complètement innocent qui travaille, qui se fait poignarder au cou, qui n'aurait pas à mourir, là, mais qui va avoir des séquelles le restant de ses jours probablement.
Ah, oui, ça c'est sûr et certain.
Mais hein.
André, qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui?
Bien, la présence toujours du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, à qui vous venez de parler justement. Il trouvait ça très intéressant au niveau de son agenda aujourd'hui. First Phosphate, depuis le temps qu'on en parle, je trouve ça intéressant. Mm-hmm. Et pour ça, il n'y a pas grand-chose en termes de mail et de presse. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le canal.
Ben, c'est vendredi. Hein?
Ben oui. Mais on a déjà vu ça. Ouais. On a déjà vu ça, une mêlée de presse à 3h le vendredi.
Ouais, mais ça, là, c'est quand ils veulent pas que ça sorte.
La question.
Parce qu'il va y avoir moins de journalistes.
Ouais.
La question qui tue, est-ce que Michel Potvin va sortir quelque chose d'ici demain?
je pense qu'il ne se risquera plus à faire ça, je pense. Je pense qu'il a dû se faire avertir à l'interne, ça, j'en suis.
Ouais, mais le problème avec Michel Potvin, c'est comme un enfant. Faut que tu répètes. Ouais. Après deux semaines, il est oublié, puis il recommence.
Par contre, pour les médias que nous sommes...
C'est merveilleux.
C'est merveilleux! Alors, voilà, non, sérieusement, il n'y a rien médiatiquement parlant. C'est plutôt tranquille au niveau des conférences et ou des mails et de presse aujourd'hui.
Alors, merci beaucoup. On vous souhaite une très belle fin de semaine sur les ondes de ma radio d'ici. le 92.5 dans le retour cet après-midi.
La visite.
La visite, ben oui, absolument.
On a décidé d'inviter quelqu'un que vous connaissez très bien aussi, Yannick Maillot.
Yannick Maillot
va venir faire un tour, jouer de la musique avec nous autres, faire la radio-brasserie vers 17h15 après les.
Ouais, c'est un animateur de radio en plus, Yannick.
Oui, ben oui. Il a commencé ici avec Jean-Michel aussi, se sont croisés.
Voilà, grand public.
Puis il va même rester un peu pour Destination New Country.
Ben là, c'est sûr, il fait du
contenu. En profiter.
Toi, ton show avec les broadcasters, c'est complet en
C'est complet demain, mais on dit qu'il reste de la place. Ça part vite à la fonderie.
C'est quand la fonderie, vous y allez?
Mois de novembre? Je pourrais pas dire, appeler la fonderie.
Les broadcasters, pour les gens qui ne savent pas, j'aimerais ça que tu nous dises, ton groupe, c'est qui est dedans?
Roger Lemay, comme chanteur, celui qui anime ici le dimanche matin de 9h à midi.
Ex-chef d'antenne de Radio-Canada.
Effectivement, qui est aussi le membre du CA.
Oui.
La batterie, Jean Bouchard, qui est un ancien technicien là, de TVA sur la route.
Mm-hmm.
Et Vincent Desautels, qui est l'animateur du matin en rouge.
Et toi-même.
Et oui, et moi-même.
Alors voilà, et la fonderie, c'est au mois de novembre. Ben, ce serait bon d'aller voir ça. Ça,
et
ça.
Cet après-midi.
Appelle tout de suite parce que ça a l'air, ça part vite.
Ouais, puis la fonderie, c'est le fun, c'est bon.
Ouais.
Puis tant qu'à avoir des invités musicaux, demain, dans l'émission Destination New Country avec Fred Point de midi à 18h, ils vont recevoir Margaret Tracteur qui est en spectacle trois fois dans la région.
Ouais.
Et également, Bruno Rodéo sera là aussi.
Ouais, ouais.
Donc,
une grosse journée.
Une grosse journée. Puis le Rodéo.
Ah ouais? Ça va dans le thème.
Et évidemment, Margaret Tracteur, c'est un nom d'artiste. Hein? Ouais. Donc,
la
chanteuse de Margaret Tracteur sera présente en studio.
Et le pirate.
Fred Point. Et voilà. Mais lui, c'est parce qu'il y a
une vraie jambe de bois. Oui, c'est parce qu'il y a une vraie jambe de bois.
Il y a une vraie jambe de bois.
Et vous allez entendre à un moment donné la météo country. J'ai dit vous.
Oui, météo country.
C'est pas encore établi.
Laissez-moi le temps de
parler. Là, on vient de surprendre André. Fred Point, il manque une jambe. Il y a une jambe de bois.
Ça paraît pas.
Non.
Ça paraît pas.
C'est cuisse de la médecine maintenant, ça paraît plus.
Une jambe de bois, une cuisse de
bois. Un pied mariton.
Madeleine.
Excusez-moi.
C'est un pied mariton, jamais su c'était quoi, par exemple.
Annick Tolère.
Un pied mariton, c'est quoi?
C'est un pied léger.
Je sais pas c'est quoi. Un pied mariton, Madeleine. Annick, on te confie le dossier de chercher ça.
C'est pied terrifié mariton. De joie. C'est un terme.
C'est quoi un pied mariton, Madeleine?
Comme une cuisse de velours, ça me met à faire. C'est d'avoir la cuisse légère. Ah. C'est vraiment ça.
J'ai entendu une expression. Au pire, je ne ferai pas
j'ai
de
nouvelles. J'ai déjà été chercher, c'est pour ça que je vous le dis. Ça rapport à.
J'ai entendu l'expression, moi, à avoir la cuisse hospitalière.
Oh!
Je l'ai trouvé bonne.
Disons, on n'a pas besoin de réfléchir longtemps, c'est
ça. C'est ça.
Ah, je vais faire deux, trois manchettes, ça va être beau.
On dit « Un pied mariton » est une chanson, en fait, un cirque populaire ayant pour thème une femme, Marie-Madeleine, au physique ingrat.
Ah!
Donc, c'est ce qu'on appelle une chanson.
Ouais, mais le pied mariton en tant que tel, c'est ça que je me demandais, c'était quoi exactement?
On dit toujours,
s'il y a des auditeurs qui savent, ils nous appelleront du côté du bureau 546-2525. On est curieux de savoir ça.
OK. On parle tout le temps de la chanson « Pied mariton ».
Marie-Madeleine.
Un pied mal tourné, un pied beau.
Ah!
Ah, c'est un pied beau.
Ressemblance avec Marie Thorne, qui